C'était la question de la prédestination morale. Vous vous rappelez de cela? Je pense qu'il y avait déjà eu depuis hier le temps d'y penser, peut-être. C'est un problème important, on va essayer de le résoudre. On ne peut pas résoudre jamais définitivement quelque chose, mais au moins avoir les idées claires. Alors, je vous avais signalé une chose qui me semble très importante pour ce texte et ce problème. Il y a deux niveaux de différence entre Jacob et Ésaü qui vont finir par s'entremêler. Mais au début, il faut les distinguer absolument. D'abord, le premier niveau, c'est la vocation humaine différente. Un a choisi la vocation matérielle et l'autre a choisi la vocation spirituelle. C'est bien clair? Alors là, vous avez déjà une première question. Est-ce que c'est librement qu'ils l'ont choisi ou est-ce que c'est de façon prédestinée? On est, comment dire, en français, prédestiné, c'est un peu fort ici. On est peut-être par tempérament, par configuration de l'identité, structure d'identité, manière d'être homme, on est plus porté à tel ou tel type de vocation. C'est un problème que je laisse pour le moment en suspens. Okay. On ne touche pas encore vraiment à la question de la prédestination, là où elle est difficile. C'est au deuxième niveau, tzadik ou rachat, l'option morale. C'est clair? Vous avez compris le problème? On en a discuté déjà hier, je pense, suffisamment. Je crois que même au premier niveau, ça peut être discuté. Est-ce que le choix d'un métier, à la limite, c'est le métier qui exprime la disposition ou la tendance à la vocation? Est-ce que le choix d'un métier n'est pas a priori mêlé aussi à l'option morale? Dans mes études, j'ai rencontré comment on appelle ça, pas lui personnel, quoique lui, oui, je le rencontre. D'accord. Il y a un psychologue hongrois qui s'appelle Zondi. Ça vous dit quelque chose, les tests de Zondi? Ça vous dirait? Il est d'origine juive d'ailleurs, mais enfin, c'est pas ça le problème. Il a établi des tests qu'il appelle les tests du destin. J'en ai que je retrouve dans ma mémoire, bon, c'est pas important les détails, mais il avait établi qu'il y a des constantes et qu'une personne donnée choisit comme de façon prédestinée, tout ça mettait au conditionnel, le genre de maladie, en particulier le genre de maladie mentale, c'est catégorisé. Je vais vous expliquer comment il établissait ses tests. Le genre de femme avec lequel on se marie, ou de monsieur avec lequel on se marie réciproquement. Le genre de métier, je vous ai dit déjà le métier? Non, métier, maladie, femme et la mort. Bon. Alors, c'était un psychologue très réputé, je crois qu'il doit être très âgé maintenant. Et ça, il y a eu une espèce de mode de cette chita. On appelait ça les tests de Zondi. Par exemple, il présentait des jeux de photographies de différentes maladies mentales. Et le patient à qui on faisait passer les tests devait dire laquelle des photographies lui plaisait le plus ou lui était le plus désagréable. Alors il y a des critères et des quotas à lui très, très, très particuliers, c'est une science pour elle-même, la statistique, comme vous savez. Il arrivait à déterminer, à travers ses choix, bon, il répétait ça plusieurs dizaines de fois, jusqu'à avoir une idée un peu répétitive du choix du patient, de quel genre de maladie ou de maladie mentale en particulier on pouvait être candidat. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon, comme quoi il y aurait un réca, un arrière-fond de l'identité qu'il appelait le destin. C'est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire juif. Le destin, ça veut dire c'est fatal, on ne peut pas y échapper. Et retenons cela, il y a un conditionnement. On a parlé de la carte d'identité génétique, de la carte d'identité d'hérédité physique, ça existe. Et l'être physique biologique et le véhicule de l'être psychique, par conséquent, ça influe. On récapitule tout ça dans la notion d'hérédité. Et puis, en particulier pour la question du métier. Alors, il donnait des exemples de ce genre, je l'ai peut-être une fois cité pour autre chose. Un homme choisira toujours le même métier, mais à des niveaux différents, suivant son conditionnement d'éducation, le milieu de la société où il est né, la famille, etc. Alors il pourrait être chirurgien, si tout va bien, sinon il est boucher, mais sinon il peut être assassin. C'est le même métier, vous avez compris, avec une différence d'ordre moral. Vous voyez que le choix du métier lui-même implique un indice moral. À la limite, chirurgien, c'est plus moral que boucher, qui serait plus moral qu'assassin. Vous comprenez ce que je dis ? Donc, retenons en tout cas cette notion, je crois qu'elle est claire pour tout le monde. Il y a évidemment une carte d'identité conditionnée au départ de la vie, et avec des facteurs qui la compliquent, en particulier le facteur de l'environnement, le facteur de l'éducation. Si on est dans une classe sociale plus riche, on est donné plus à être moral parce qu'on n'a pas les tentations d'une autre classe. Et c'est discutable. Ça peut être l'inverse, que dans une classe moins riche, on est donné plus à être moral parce qu'on doit travailler pour vivre de façon plus sérieuse, alors que dans une classe aisée, les tentations des loisirs font qu'on peut devenir immoral. Tout ça se discute, mais il reste que dans le fond même de la personne, il y a une option libre de l'attitude de la volonté qui fait que, choisissant un métier, on choisit en même temps, sans s'en rendre compte, une conduite plus morale ou pas. Par exemple, c'est très difficile de rester moral quand on est banquier. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et il n'est pas possible de devenir, dans la société moderne, c'est un problème, il n'est pas possible de devenir très riche sans avoir été un peu filou. C'est évident. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est clair. Donc tout ça a l'air très très compliqué, et c'est très compliqué, mais en schématisant, en décantant un peu, il y a quand même deux niveaux différents qui apparaissent. Qu'on ait des tendances à tel ou tel métier, c'est une chose. Donc à telle ou telle vocation, c'est une chose. Qu'on ait des tendances au problème moral, à être plutôt sadique ou plutôt rachard, c'est une autre chose. Il va y avoir relation, interconnexion, si vous voulez, mais c'est quand même deux niveaux complètement différents. Alors admettons, par postulat, que le choix de la vocation est libre, ça se discute, c'est pas pour rien qu'on a choisi telle ou telle vocation, mais en tout cas, le niveau où le choix de la vocation est plus moral que moins moral, là, postulat, on reste libre. C'est bien clair ? Et surtout, le point où nous sommes arrivés, c'est que dans les deux vocations, et la vocation spirituelle et la vocation morale, on peut être ou tzadik ou rachat. À travers la question de Myriam, c'est bien, Chantal ? Ou Myriam ? Donc, quelle est l'option différente? La différence d'option. C'est que on pourrait supposer, a priori, c'est comme ça qu'on rencontre ce problème, qu'une vocation spirituelle rend plus facilement morale. On a vu que c'est pas évident. C'est clair? Et inversement, on pourrait dire qu'une vocation matérielle rend plus forcément immorale. C'est pas forcément évident. Il reste un dernier carré des valeurs où la volonté est libre et peut rester morale, quelles que soient les difficultés de l'option du métier ou de la vocation. C'est bien clair jusque-là. Alors, ceci dit, c'était le moment d'étudier ce rachis que nous allons étudier, c'était donc la question. Alors, tu vas me lire le rachis en hébreu et en français pour que tout le monde l'entende bien. Alors, c'est sur le verset 23, et ensuite, on étudiera ce que rachis a dit en fait littéralement. Tu n'as pas le français ?
Non, j'ai pas
la mission de Rachid, mais aussi, je n'ai pas le français. Ça fait rien, je t'aiderai. Alors, lis d'abord en hébreu. Mimeaïr et Paredou. On est au verset 23, Ken. Alors, je lis avec toi ou tu lis avec moi ? Commençons à la première lettre. Mimeaïr et Paredou.
Mais sans
Rachid, j'ai rien. Vous l'avez en caractère carré ? Bon. Ça fait rien, laissez-le se débrouiller. En caractère rachis. C'est pas difficile, les lettres ressemblent énormément. Quelle est la première lettre? Parle plus fort. Non. Mimeaïr qui apparaît doux. C'est. Donne-moi ton texte, tout le monde. Tout à fait en bas. À la fin, complètement. D'abord, qu'est-ce que veut dire le verset ? Shnei goyim bevitner ou shnei leumim mimeaïr yeparedu. Il y a deux nations en ton sein et deux peuples qui se sépareront dès les entrailles. Mimeaïr, dès tes entrailles. Tu fais partie de chez nous ? Alors, Mimeaïr iparedou, ça c'est le verset que cite Rashi. Et ensuite il y a deux mots dans la page déjà, Min Ameaïm. min, ça veut dire à partir de, min, des, les entrailles, meraïm, continue, hem, nifradim, ils se séparent. Zé, les riches, o, tu as un verbe dans le texte?
Non,
ça fait rien, je l'ajoute. Mais elle est tout mou. Alors, maintenant, lis ça en français.
Se ramifieront de ton sein.
Se ramifieront, qui dit. Bon, ça veut dire, il paraît, se divergeront. Okay.
Et les seins de leur mère, ils se séparent. L'un allant vers son impiété.
L'un, ah, très bien. Alors, parle plus fort. L'un allant vers son
impiété. L'autre vers
son impiété, l'autre vers son intégrité. Bon, c'est bien traduit, tout arrive. Et alors, où est la question et où est la réponse? Quelle était ta question?
Justement, par rapport parce que c'est une vie, par rapport à la prédestination morale.
Oui.
J'avais parlé de prédestination morale, et le sein de la mère, en fait, une séparation entre les deux enfants.
Mais comment tu t'appuies sur Rachid? Si j'ai bien compris, Rashi semble dire qu'il y a une prédestination morale. Comment tu le vois dans Rashi?
Il qualifie les tendances de chacun.
Non, c'est plus précis. Il dit que dès la naissance.
Oui.
Alors, reprends le Rashi bien, en détail, à la lettre. Tu peux le lire en français.
Dès le sein de leur mère.
Oui.
Ils se séparent. L'un allant vers son impiété. L'autre vers son intégrité.
Bien. Alors, où tu vois que Rashi a dit qu'il y aurait prédestination? C'est lui qui parle. Hein. Ça pourrait être dès le sein qu'elle. Hein. Et puis, on entend impiété pour l'autre, intégrité pour l'autre. Ah.
Alors, il y a une prédestination parce qu'il y a une version ajoutée. C'est qu'il avait le choix entre l'impiété.
Très bien. Très bien. Et vous reprenez. Très bien. Vous avez compris tout le monde? C'est le mot « son » en français, mais le « vav » qui est en hébreu, ici. Les riches en haut. Okay. Si le texte avait dit « zé les riches out », voilà. Celui-là va à l'impiété et celui-là va à l'intégrité, alors on pourrait dire qu'il y aurait prédestination. C'est pas du tout ça que Rachid a dit. Il va vers son fait d'être impie dans sa vocation, il aurait pu aller vers son fait d'être intègre dans sa vocation. Et que Jacob va vers son fait d'être intègre dans sa vocation. Lui, il aurait pu aller. Bon, je vais essayer d'imager ça un peu. A priori, et nous allons voir tout à l'heure, c'est le deuxième point qu'on va étudier aujourd'hui, le plan de Isaac. Ça éclaire le plan de Isaac. Pourquoi Isaac ferme les yeux sur beaucoup de choses avec complaisance et protection sur Ésaü. Vous vous rappelez de cela? Bon. Ça veut dire, a priori, on aurait pu avoir un Ésaü cacher et un Jacob cacher. Ça veut dire un homme de la vocation matérielle, mais qui reste tzaddique. C'est difficile, mais c'est possible. La preuve, qui? C'était toi qui avais dit hier?
Yosef.
Yosef, très bien. Et on pourrait avoir un Jacob tzaddique, ce qui a eu lieu, ou un Jacob rachar, c'est possible aussi. C'est clair? Tout le monde a compris? Bon. Qu'est-ce qui a eu lieu finalement? C'est un Ésaü rachar et un Jacob tzaddique. Mais a priori, les quatre possibilités étaient possibles. Vous avez compris le problème? Quatre combinaisons possibles. C'est clair? Si c'est vraiment clair, je ne vois pas sur votre figure si c'est clair encore. Ça va? A priori, quelles que soient les difficultés pour Ésaü d'être sadique, il aurait pu. A priori, quelle que soit l'invraisemblance pour Jacob d'être rachar, il aurait pu. Je lui ai dit, on ne refait jamais l'histoire à l'envers. Mais quand même, théoriquement, ça nous éclaire le problème. Alors, retenez bien. On pourrait tenter, en allant trop vite dans la lecture de Rashi, d'y voir une indication à la prédestination, mais c'est ce verbe-là qu'il ajoute et qui est important. Il y a une bifurcation possible. Et voilà que dès le début, on voit que Ésaü, choisissant la chasse, vous rappelez, le monde extérieur, devient rachar. Et dès le début, Jacob, choisissant l'étude, il habitait les tentes, vous rappelez, il devient tzaddik. Et c'est un peu schématisé, si vous voulez, c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, ça nous aide à comprendre, puisque c'est toujours des thèmes d'identité, que c'est comme ça qu'en général ça se passe, et donc c'est très dangereux d'apprendre l'option d'Ésaü. Mais Joseph viendra me porter le témoignage que c'est difficile, mais c'est possible. Pour rappeler, je crois que c'était la Kitabet, la Kitabet, une fois j'ai remplacé pour le cours de Paracha. D'ailleurs, il faut connaître que Yosef Haya Ben Itzraïm, Joseph était en Égypte, Rachid intervient et il est resté tzadik. Vous vous rappelez de cela? Donc. Et maintenant, effaçons tout cela. Enfin, n'oubliez pas, mais effaçons tout cela. Si le problème se repose formellement, vous avez décidé pour un de vos enfants quel genre de métier il doit prendre, vous voyez qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des métiers à travers lesquels c'est plus facile d'être tzadik. On est aidé. Il y a des métiers à travers lesquels c'est plus facile de devenir achat, on est aidé aussi.
Et le problème, c'est pas plutôt dans le fait d'avoir à choisir un métier pour ses enfants?
C'est quoi?
Le problème, c'est pas plutôt dans le fait d'avoir à choisir un métier pour ses enfants?
Non, mais j'ai pas compris ta question. C'est-à-dire, bien entendu, tu peux pas choisir un métier qui n'aille pas avec le boss. Il a ses propres...
Mais c'est vraiment aux parents de choisir.
Oui, de l'aider à avoir un métier. Dans la Gemara de Kiddushin, à la page 22a. J'ai lu ça il y a quelques années. non, c'est une page classique. Il y a un certain nombre de devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et un des premiers en tête, c'est d'apprendre un métier à son fils ou à sa fille, quand c'est une société où les femmes doivent travailler. Et la Gemara dit, celui qui n'apprend pas un métier à son fils, c'est comme si il lui apprend à le brigandage. Non, attendez, je vais dire un peu l'humour de la Gemara. Elle dit, celui qui n'apprend pas un métier à son fils, lui apprend le brigandage. Et la Gemara objecte, brigandage, tu peux croire? Non, c'est comme s'il lui apprenait le brigandage. Parce que l'idée qu'un père apprenne le brigandage, on ne sait jamais, dans des lignées de banquiers, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, pour revenir, j'aime beaucoup les banquiers, mais de loin. Et alors, ça veut dire que c'est un des devoirs absolus. L'objectif de l'éducation, c'est de rendre un enfant autonome. Qu'est-ce que ça veut dire autonome? Capable de fonctionner par lui-même dans la société. Le jour où il est autonome, c'est que l'éducation a réussi. C'est clair? Le problème de l'éducateur, c'est un problème. On a étudié ça une fois, l'éducation? Avec vous?
Bon.
Parler un petit peu, oui. C'est vrai. Mais ça vaudrait la peine qu'on l'étudie une fois pour lui-même. Qu'est-ce que la Torah dit de ce problème-là? Et je vous rappellerai cette page. Ça veut dire que l'éducateur a réussi quand l'enfant peut se passer de lui. Un éducateur qui serait comme une mère possessive, vous voyez ce que je veux dire, il a échoué. Ça veut dire qu'il voudrait mieux qu'il change de métier, vous savez lequel. Mais la bar mitzvah, c'est une hanouka. Le mot de hinour en hébreu a trois sens. Hinour. Les deux premiers sens vont avec éducation, enseignement, instruction. C'est pas la même chose. L'éducation, c'est pour devenir un petit homme cohérent, c'est pas donné par la nature. Deuxièmement, l'instruction, c'est pour apprendre un métier. En fin de compte, comme je vous ai dit, l'éducateur par excellence, c'est les parents. La société moderne est trop compliquée, alors les parents délèguent premièrement l'instruction, il y a longtemps qu'elle a délégué à l'État, les écoles, et les écoles, c'est pourquoi? En vue d'avoir un métier, c'est clair. Hein? Et puis aussi l'éducation elle-même, la famille n'est plus capable de le faire pour des raisons objectives parfois, alors elle délègue ça à l'éducateur. Okay? Mais comme pour les ersatz, maître d'école ou éducateur, pour les parents c'est la même chose, l'éducation a réussi chez l'enfant quand il est majeur, quand il est autonome. C'est clair? Ça c'est le deuxième sens du mot chinour que vous avez dans Hanouka, inauguration. On inaugure quelque chose quand ça fonctionne. C'est clair? Alors la bar mitzvah, c'est une hanouka de l'enfant. Vous avez compris le problème? Alors, je reviens à ce problème. C'est un des devoirs des parents de veiller à ce que leurs enfants aient un métier. Parce que sans métier, ils ne sont pas autonomes. Vous avez bien compris? Alors là-dessus, la Gemara demande un exemple. Un exemple d'un métier. Elle dit, tous les métiers seront faits dans la société. Alors autant choisir pour ton fils un métier propre. Un métier propre et un métier beau. Vous avez compris ce que je veux dire? Propre tout court et propre moralement. Et un métier beau. Et donne un exemple. Ça vous fera comprendre pourquoi dans les communautés traditionnelles, il y avait tellement de bijoutiers juifs. Je ne sais plus comment on dit en français, orfèvre ou bijoutier. Quelqu'un qui travaille pour fabriquer les bijoux. Les diamants, l'or, ne lui appartient pas. Ça, c'est le banquier. Okay? Donc, il n'est pas compromis avec les tripatouillages. Mais il travaille dans de la matière précieuse. C'est beau et c'est propre. Et il travaille peu, il gagne beaucoup, le reste du temps, il peut étudier. Vous avez compris pourquoi à Anvers, il y a tellement de diamantaires. Okay. Bon, je pense que vous prendrez les choses en bonne part. Okay. il y a une responsabilité dans le choix du métier. Pourquoi la Guémara le dit très clairement ? Parce que ça dépend du métier, si on sera un jour tzaddik ou rachat. Il y a des métiers difficiles pour être tzaddik. Il y a des métiers faciles pour être rachat. Vous avez compris le problème ? Je ne sais pas, vous avez, par exemple, je reviens à cette thèse de Zondi, un autre exemple, on peut être ferblantier, ou industriel en casserole, ou marchand de canon. Oui, ça rentre. C'est clair ? Vous voyez le genre de... Okay.
Comment est-ce qu'on peut dire que dès le sein de sa mère, un petit nourrisson se dirige...
Voilà, les commentateurs de Rashi, pensaient bien, ont posé cette question. Elle est grave, parce qu'après tout, ça tient sur une tête d'épingle. Rashi se va, voilà. Il y a de quoi se tromper. Il veut dire que c'est récapituler a posteriori. Il y a un principe qui dit « Sofo more al tehilato ». Je traduis « Sofo », sa fin, « more », montre, « al tehilato », ce qu'était son commencement. A posteriori, il s'avère que dès le début, il avait choisi ça. C'est clair ? Vous avez compris ? Rappelez-moi comment ce principe, nous l'avons souvent étudié d'une autre manière, que c'est la fin qui montre ce qu'il y avait au commencement.
C'est le projet qui...
Comment c'est en hébreu ? Vous l'avez dans les Hadodis. Sauf Mahasé, Bemachashava, Techila. Vous vous rappelez de cela ? Alors là, c'était une autre formule. Sofo, More, Al, Techilato. Lorsque, longtemps, quelqu'un pourrait être ou comme ça, en fin de compte, il devient comme ça. C'est que dès le début, il était comme ça. Voilà ce que veut dire Rose.
Dès le début, c'est quand le début ?
Ah, dès la naissance. Ça veut dire que, et je vous expliquais 2000 Rachim à ce niveau, sur ce problème, qui éclaire un peu plus, mais l'analyse est claire. C'est-à-dire, puisqu'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est que dès le début, il avait choisi de devenir cela. Je me suis peut-être mal exprimé, j'ai peut-être trop schématisé. Ça veut dire, ce qu'on est en fin de compte dévoile ce qu'on était depuis le commencement. Vous y êtes ? C'est le problème du jugement. Vous rappelez, je vous ai toujours rappelé cela. Le véritable jugement, c'est le dernier des jugements, qu'on appelle le jugement dernier. C'est à la fin qu'on sait comment ça a commencé. Et a posteriori. Donc, ce Rashi doit être lu dans ce principe. C'est une récapitulation a posteriori. Mais au niveau du pshat, du verset, le verset indique qu'ils se sépareront dans leur vocation de civilisation. On n'a pas parlé au niveau du verset de morale. Okay ? Rashi intervient et fait allusion au deuxième niveau, celui de l'option morale. Au bénéfice des analyses qu'on a déjà eues. C'est-à-dire que dans chacune des vocations, on peut devenir tzaddik ou rachat. L'expérience montre que dans la vocation matérielle, c'est beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est prédestiné. Je vous avais cité Maïmonide hier en fin de cours, oui. Et vous aurez à l'étudier en détail. Maïmonide refuse l'idée de la fatalité du destin, mais il admet, et avec une très grande clairvoyance, en son temps, ce n'était pas connu dans la culture générale, qu'il y a un conditionnement de chaque individu dès sa naissance. Je vous ai donné les facteurs tout à l'heure, vous pouvez faire la liste vous-même. Carte d'identité génétique, ça existe. L'influence de l'environnement, ça existe. La nature d'éducation, ça existe. Les exemples, les modèles, tout ça. Toutes circonstances connues, on est jugé sur ça, sur la part de liberté qu'on avait dans le choix. Il est possible que pour beaucoup d'individus, cette part de liberté est infime. Alors on le juge sur une part de liberté infime. Vous avez compris le problème. C'est-à-dire toutes circonstances connues. Et alors Maïmonide établit, je vais vous donner un vocabulaire en français qui traduit la distinction très très importante qu'il fait entre détermination et conditionnement. Détermination, c'est destin. On ne bouge plus. C'est la loi chimique. Elle est déterminée. Okay ? Ou à la limite, la loi mathématique. Okay ? 2 et 2, ça fait 4 et on n'y peut rien. Un point. C'est fatal, destin, si des lois de ce genre jouent sur la vie humaine, ça s'appelle le destin parce que c'est déterminé. Vous y êtes ? Il substitue à cela conditionné. Ça veut dire un conditionnement, ça peut se briser, pas une détermination. Vous avez vu la différence ? C'est bien clair. Alors, si vous négligez l'aspect conditionnement, et vous affirmez on a liberté totale absolue, l'expérience va contredire ça et on va jeter... la liberté, tout le reste avec. Vous comprenez ce que je veux dire ? On va être déçu de ce qu'on avait appris, on est libre, mais l'expérience montre qu'on ne l'est pas, puisqu'on est conditionné, qu'on n'est pas totalement, absolument, de façon aussi naïve a priori. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, il faut récupérer la dimension du conditionnement, alors là, la liberté est à sa place. Parfois, c'est une très petite place, mais ça suffit. Je vous ai dit souvent, les gens étaient plus ou moins libres. plus ou moins personnes, plus ou moins capables d'une neshama. Vous vous rappelez de cela, okay? C'est vrai, retenez bien cela, l'expérience vous montrera, et faites bien attention lorsque vous avez des textes aussi absolus que ces textes de Maïmonide, par exemple, qui disent carrément, sans bavure, l'homme est libre de choisir s'il veut être sadique ou rachat. Il veut faire le bien, il fait le bien, il veut faire le mal, il fait le mal. La connaissance de l'homme concret, tel que nous le connaissons dans le monde qui est le nôtre, c'est pas si simple que ça. On est pris dans des conditionnements compliqués. Okay? Donc il faut nuancer. C'est bien clair? Je vous dirais pour Maïmonide, c'est une des choses les plus importantes comme clé de son enseignement. Maïmonide est un aristocrate de la morale. Il parle pour les gens normaux. Et il y en a très peu. Vous avez compris ce que je dis? C'est bien clair. Okay? Parce qu'on rentre dans le bêta-midrash de Maïmonide, alors on voit combien il y en a là-dedans. Très peu. Okay? C'est à ce niveau qu'il parle. D'autres rabbins tiennent compte de la réalité concrète de ce que l'homme est devenu, ils parlent en bas de l'échelle. Et alors là, il faut faire attention. Quand on les entend, des fois, on a l'impression qu'on est tous des rechaïm. C'est pas vrai, non plus. Vous avez compris le problème. Okay. Voilà, il faut jouer là-dessus. Alors, retenez bien cette distinction entre détermination, là il y aurait fatalité, c'est pas le cas, il y a conditionnement. Je vous dirais, une des consignes de la morale pratique qu'on a d'ailleurs dans cette page de Gemara, je vous ai cité que les parents ont obligation d'enseigner un métier, vous vous rappelez, et là, la Gemara demande quel genre de métier. C'est quand même un sujet. Mais par exemple, il y a obligation d'apprendre à l'enfant à nager. Vous savez cela. Pour qu'il puisse être autonome, c'est très clair. Si quelqu'un ne sait pas nager, il n'est pas autonome. Et il ajoute à monter à cheval. Alors aujourd'hui, c'est la bicyclette, le tricycle, la moto, tout ce que vous voulez, ça finit jusqu'à conduire un tank. Mais ça va dans le même sens. C'est clair. Ah oui, tous les devoirs que les parents ont pour leur enfant. Voilà. Attends, toi, tu as une question? C'était toi, oui.
Je voulais vous demander pourquoi dans le texte, Goïm était marqué avec deux
yud. Avec deux yud, oui. Il y a un midrash pour ça. On lit Geïm. Ça veut dire le chef de la nation a l'orgueil de sa nation. Un midrash qui modifie. En vérité, la raison pour laquelle il y a un yud à la place d'un vav ici, c'est une question de Kabbalah. Donc ça, on n'étudie pas. Mais le midrash utilise, en montrant cela, qu'il y avait... il y a eu une occurrence historique où effectivement un descendant d'Ésaü et un descendant de Jacob, les deux à la tête de leur nation, ont été amis. Et c'était Rabbi Yehuda HaKadosh pour Israël, et je crois que c'était l'empereur Antonin, c'est celui-là? Oui. Ils étaient amis. Imaginez, le chef de Rome et le chef de Jérusalem amis. Ça veut dire que ça peut arriver quand les deux sont sadiqués. C'est bien. Alors, on a rattaché ça à ce midrash. Oui, il y avait encore une autre question, rapidement, que je revienne au sujet. Quel?
Est-ce que la crainte d'identité génétique est plus forte ou moins forte que l'influence de l'environnement?
Ça dépend des individus. Il y a des individus pour qui la crainte d'identité génétique est très conditionnante, l'environnement moins. Pour d'autres, c'est l'inverse. Ça dépend. Vous savez, en éducation, chaque cas est un cas individuel. Il ne faut jamais raisonner par analogie. D'ailleurs, au niveau du problème moral, c'est la même chose. Une conscience est géniale pour elle-même. Ça ressemble à rien d'autre. Même quand ça ressemble. Surtout quand ça ressemble. Vous avez compris ce que je veux dire? Et il faut, justement, c'est un des dangers de ce qu'on appelle la pensée généralisatrice, qui est une pensée totalitaire. Quand on généralise, c'est à la limite, c'est le fascisme. De mettre tout le monde au niveau d'un numéro, les masses humaines, vous voyez, ce genre d'expression, la foule. Non, chacun est un génie pour lui-même. D'ailleurs, je veux dire, dans l'enseignement traditionnel, ce que nous faisons là, c'est hérétique complètement. On n'a jamais enseigné la Torah à une classe. C'est un maître pour un élève, deux au grand maximum. Vous avez compris? Alors, j'aurais dû dire l'inverse, un élève pour un maître. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas faire autrement. Mais vous comprenez pourquoi? Parce que le même enseignement, pour l'un est bénéfique, pour l'autre n'est pas bénéfique. Parce que son équation n'est pas celle à qui il fallait parler comme ça. De la même valeur. Vous avez compris le problème? C'est clair, méfiez-vous en tout cas en général d'une pensée qui généralise. Ça nous a coûté cher. Les juifs, quoi les juifs? Chaque juif est un juif différent, okay. Vous avez compris? L'égoïme, la même chose.
C'est ce qui nous arrive quelquefois.
C'est ce qui nous arrive?
Généraliser.
Oui, mais c'est pourquoi je vous mets en garde, il ne faut pas généraliser. Il y a un type d'identité qui fonctionne, mais chaque individu, c'est un individu. C'est clair?
Est-ce qu'il faut comprendre que le choix des différentes options, ça se fait avant toute influence extérieure, par exemple avant l'influence de l'éducation, c'est d'emblée.
Et, ou même pendant, ou même à travers, c'est vrai, ça et ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le point central de chaque personne qui lui reste intègre, qui n'est pas entaché par quelque influence que ce soit. C'est lui qui décide. Alors, le vouloir est absolu, le pouvoir n'est pas absolu. Vous comprenez la différence ? Ce vouloir entièrement libre se heurte à des obstacles. Alors, le pouvoir dans lequel il se réalise, lui, n'est pas absolu. Mais c'est le problème de l'intention, en fait. L'acte est très important, mais finalement, la nature de l'acte dépend de son intention, à la limite. Et pourquoi, encore une fois, on est jugé toutes circonstances connues. Vous suivez ?
Oui, mais je veux dire, au niveau des conditionnements, il existe toujours. Par exemple,
on peut être plus fort qu'un conditionnement.
Oui, mais je veux dire, si par exemple, je veux acheter une robe. Il y a justement le problème de la mode, c'est-à-dire
oui. C'est-à-dire, à certaines conditions, il y a ce qu'on appelle le domaine neutre. La forme de la robe, la couleur de la robe, ça peut dépendre de la mode, c'est pas très grave. Le fait qu'on soit bien habillé décemment, ça c'est autre chose. Avec n'importe quelle robe, de n'importe quelle mode. Vous avez compris ce que je dis ? Lorsque le facteur moral joue, on peut maîtriser le conditionnement. Je vais raconter une petite histoire qui me rappelle que quand j'étais jeune parent et on avait l'habitude d'amener les enfants chez le pédiatre. Vous savez ce que c'est ? Alors, je ne sais pas mais combien il fallait le régime alimentaire. Et là aussi, il y a des mondes. Alors, le médecin qui dit tranquillement à ma femme, j'étais devant, et vous lui donnerez deux fois par semaine du jambon cru. Ma femme qui commençait à tomber en syncope. Comment on va faire ? Alors j'ai dit, ça ne peut pas être une autre viande, bien sûr, mais crue. C'est tout. Comment ? C'est-à-dire, si on se laisse prendre à la mode, on est perdu. Or, c'était une mode. C'est comme ça qu'on dit en ce siècle, du genre. Bon. Mais ça peut être quelque chose qui aide, comment on appelle ça ? Les globules rouges, l'hémoglobine. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Alors imaginez, énormément de jeunes parents juifs, naïfs, les juifs sont naïfs, qui ont donné comme ça des cochonneries à manger à leurs gosses parce qu'ils ont eu peur de la mode. Vous avez compris ? Ça se déconditionne, tout ça. On reste libre. Alors retenez cette notion. Elle est en discussion chez les rabbins. Est-ce qu'il y a vraiment un domaine neutre ? Mais on peut admettre comme postulat. Il y a un domaine neutre où ça ne joue pas. Ça peut être comme ça ou autrement, peu importe la mode où tu es. Vous avez compris le problème ? Par exemple, la Torah n'a jamais dit « Tu t'habilleras en complet veston, ou en burnous, ou en caftan. » Elle a dit « L'habit que tu as, s'il est décent, mets des tissites. » Vous avez compris la différence ? Quoi, j'ai toujours la nostalgie du burnous de mon grand-père, mais ma femme dirait qu'elle, son grand-père, c'était le caftan. Alors, on s'habille en français. Ça n'a pas d'importance, mais elle est titite dedans. Vous avez compris le problème ? Dedans, pas dehors. Hein. On revient à la question. Il y a une halakha comme ça, en tout cas pour les sfaradim, c'est interdit de mettre les titites dehors. Ça s'appelle yohara.
Pourquoi ?
Je parle de la halakha des sfaradim. D'après, chez les ashkenazim, c'est l'inverse. Ouais, chez les sfaradim, c'est interdit. Yohara, je cherche à vous traduire, ça veut dire c'est un peu de... regardez-moi comme je suis beau, j'ai des titites. Comment on dit ça en français ? Vanité, la vanité. C'est de la vanité, je suis différent de toi, regarde bien. Et surtout, ça risque de provoquer la jalousie des goyim. Et quand les goyim se mettent à être jaloux, ils sont spécialistes.
Comment Israël, la vanité, pourrait porter les titites dehors ?
Non, parce que même vis-à-vis de l'autre juif, ça ne fait pas joli. Vous comprenez ? Il y a des niveaux de gravité des mitzvot. Jamais, il y a dit nulle part que les titis doivent être dehors. Si l'habit, la mode de l'habit, c'est que l'habit est dehors, la chemise est dehors, alors les titis sont dehors. Mais qui a dit qu'il faut que la chemise soit dehors ? Tandis que chez les Ashkenazim, on avait affaire avec les chrétiens. Et tout ce qui pouvait symboliser le fait qu'on pratique les mitzvot, on le montrait. Pour pouvoir tenir le coup. Okay ? C'est deux mondes différents. Mais remarquez bien, chez les Baalei Tshuva, il y a des phases. Okay ? Et quand, c'est clair. Et quand le Baal Shuva a fini par rentrer les titis, c'est qu'il est Baal Shuva. Tant qu'il les avait dehors, on n'est pas sûr. Vous avez compris ce que je veux dire ? Bien. de quoi on parlait comme sujet, finalement, c'est que c'est la réponse à ta question qui est une question importante. Enfin, le jugement que le Midrash, que Sid Rashi porte, est un jugement récapitulé a posteriori. Il est devenu tellement rachat que ça veut dire que dès le début, il était rachat. Vous voyez le décalage, c'est clair ? Vous voyez le décalage entre le pshat du verset et Rashi. Le pshat du verset parle des vocations, alors que Rashi intervient au niveau de l'option morale. C'est clair ? Mais c'est pourquoi il dit « Zel erishao, ve zel etumo ». Ça y est ? C'est clair ?
Est-ce que la Torah considère qu'un enfant est responsable dès sa naissance de certaines choses ?
Je vais te dire, ça il faudra vraiment qu'on étudie ce problème pour lui-même. Je ne vous ai pas fait de cours au début de l'année là-dessus ? Bon, alors on le fera. Peut-être même avant que vous partiez à Netibol. L'enfant n'est responsable par rapport à l'obligation que l'on doit à une valeur érigée en devoir, une mitzvah, qu'à partir de la bar mitzvah. Et il faut le savoir. Jusqu'à la bar mitzvah, il est bar chinour. Ça veut dire qu'il a une seule responsabilité et il faut que l'éducateur, les parents, s'arrangent avec la stratégie d'amour du gosse suffisante pour qu'il accepte d'être éduqué. Mais il n'est responsable d'aucun comportement par rapport à la loi. Il n'est pas bar mitzvah. Attendez, je finis. Pour une fille, c'est la même chose. Bat mitzvah, c'est un an avant d'ailleurs. Elles sont précoces. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Et parce qu'on est soumis à obligation, chova, mitzvah, qu'à partir du moment où on est capable de donner la vie. C'est pourquoi c'est la puberté. Okay. Alors jusque-là, les mauvais éducateurs s'arrangent pour culpabiliser les enfants. Un enfant doit rester innocent jusqu'au moment où il devient majeur. Vous avez compris ? Alors il y a une initiation à la valeur de responsabilité, mais c'est une éducation. Et il y a énormément d'enfants qui sont malheureux, ils ne sont pas heureux d'être enfants, parce qu'on leur impose une conduite adulte avant le temps. Surtout au niveau de la vie intérieure. Okay. Je veux dire, le temps de l'enfance a été donné pour énormément de raisons. Il y a des finalités à cela, en particulier, c'est un temps d'apprentissage. Mais il a été donné pour être quand même un temps d'innocence et donc de bonheur d'être, auquel on se réfère toute la vie pour savoir que ce n'est pas forcément un destin pour l'homme d'être malheureux. Je me rappelle, quand j'étais enfant, j'étais heureux. Donc, vous avez compris ce que je veux dire ? Alors, une éducation exagérée, dans le sens de la culpabilisation, et c'est une catastrophe. C'est-à-dire, un homme qui n'a jamais été enfant vraiment, dans le sens que je dis, ne sera jamais homme, parce que toute sa vie, il va courir après son enfance qu'il n'a pas eu. Pour les femmes, c'est la même chose. Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc là, il y a un problème extrêmement délicat. C'est qu'il faut distinguer responsabilité et culpabilité. Je crois qu'on en a parlé souvent, mais centrer ça ici. Il n'y a de culpabilité vis-à-vis de la loi qu'à partir du moment où on est soumis à obligation. Si on n'est pas soumis à obligation, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Un enfant doit être libre. Il est en apprentissage. Comme je vous ai dit souvent, avant d'être sage, on est apprenti sage. C'est le cas. Et alors, il y a des enfants qui sont mûrs plus rapidement que d'autres. Encore une fois, chacun est un cas particulier. Alors on les initie à la pratique des mitzvot, mais surtout qu'ils aient clair à l'esprit qu'ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas soumis à obligation. Ils sont soumis qu'à la discipline de l'éducation, du chinour, pas de la mitzvah. C'est clair ? Et le jour de la bar mitzvah, c'est un jour important. On devient adulte, un point. C'est clair ? Il n'y a pas de mitzvah pour une vie. Alors, simplement donner une indication à ce sujet, puisqu'on a parlé, on reprendra ce problème en général. C'est que c'est très frappant de voir que dans les sociétés anciennes, et c'est resté dans la tradition juive, le jour de la puberté, ça ne s'appelle pas une communion, comme on dit en français. Ça, c'est du jargon de la mythologie chrétienne. Okay. C'est le jour de la majorité. La bar mitzvah, ça veut dire on est majeur. La société est arrivée à un stade où la majorité sociale est très retardée. Et il y a entre la puberté et la majorité sociale un temps très délicat pour les adolescents, qui est le temps de la crise de l'adolescence d'ailleurs, mais qui n'existe pas dans les sociétés traditionnelles. Parce que dans une société traditionnelle, à l'âge de la puberté, on est majeur. Quand un gosse qui est déjà bar mitzvah s'en va à la synagogue avec son père, chacun son talent, un plus grand, un plus petit sous le bras, ils ont deux places égales. Leur amen, chez moi, la même valeur. Le gosse sait qu'il est quelqu'un. C'est clair. Tandis que dans la société extérieure, on l'appellera monsieur que quand il aura une valeur économique X. Alors là, ça arrive 30 ans, 40 ans, des fois plus tard, et après on commence à vieillir. Oui, il y a du temps pour vivre. C'est clair, c'est celui. Alors, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est ceci. La règle, et c'est resté dans le judaïsme, bien sûr, c'est quand un enfant est capable de donner la vie, il est majeur. Alors, dans les sociétés occidentales, et pour les raisons que vous allez comprendre par vous-même, c'est l'inverse. C'est quand un enfant est capable de faire son service militaire, c'est-à-dire, le cas échéant, d'enlever la vie à quelqu'un d'autre, qu'il est majeur. Vous voyez la différence de mentalité morale. Okay. C'est très, très frappant. Bien, alors ça, c'est un problème pour lui-même. Et les enfants qu'on a culpabilisés avant la bar mitzvah, à tort, ne seront jamais entièrement vraiment responsables, même adultes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Okay. Vous comprenez comment le transfert se fait. Top. Bien. Et il faut bien noter cela, c'est que la responsabilité des parents à ce niveau-là est très grande. En général, comme j'ai dit, ils ne sont pas capables, à cause de l'état de la société, de s'en occuper eux-mêmes. Alors il faut choisir l'éducateur de telle sorte qu'il y a une complicité entre l'éducateur et les parents. Et un éducateur compétent, qui connaît son métier, disons sa vocation, s'explique avec les parents avant d'accepter la charge d'un enfant. Dans un mouvement de jeunesse, un tel moutour, à n'importe où. On s'explique avec les parents, on leur rappelle comment ils étaient quand ils étaient enfants, mais ils ont oublié, c'est ça des adultes. Un adulte, c'est quelqu'un qui a oublié que c'est un enfant. On leur explique comment ça se passe, cette crise de l'adolescence. On leur explique qu'on va gérer des tendances à la révolte contre les parents pour le bien de l'enfant et des parents. Et en fin de compte, on arrivera à un stade où on les réconciliera. Mais en attendant, il faut que les parents sachent ce qui va se passer. C'est que les enfants vont se braquer contre eux. C'est naturellement normal. L'éducateur va gérer ça au mieux des intérêts de l'enfant. Vous avez compris le problème ? Alors, vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça en général, c'est le chaos absolu. On joue à n'importe quoi, on joue à être parent, on joue à être éducateur, on joue à être tout ce que vous voudrez. Mais en tout cas, ça vous donnera une idée directrice de ce problème. Un enfant qui ne rit pas, qui n'est pas heureux de vivre, il y a quelque chose qui ne va pas chez les parents. Je pense que c'est clair. Vous avez compris le problème ? Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? C'est qu'il y a un tel mur de pudeur entre entre les parents et les enfants, on ne se parle pas. Alors, les parents et les enfants ne se parlent pas, l'enfant a besoin d'un tahlif, je dirais même d'un ersatz, de quelqu'un à qui il puisse parler des vrais problèmes qui l'agitent. On en a parlé la nuit d'études un peu, okay ? Mais c'est ça le fond du problème. Il y a des familles où ça marche. Il y a des familles où ça marche parce que, tout simplement, les parents sont normaux. Ils ont eu eux-mêmes des parents normaux, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais en gros c'est ça, c'est clair. Et l'enfant a besoin de deux parents différents. Un, le père, qui représente la loi, et la mère, qui représente la protection contre la loi. C'est clair. Et il faut savoir que chacun doit jouer son rôle. Si l'enfant ne s'appuie pas sur la sévérité du père, il est affolé. Et s'il n'y a pas la gentillesse de la mère, il est perdu. Alors, il faut les deux. C'est clair, c'est solide. Top. Alors bon, je ferme la parenthèse. Je voudrais quand même arriver, revenir à la question de Jacob et Esaü dans ce problème. C'est avec cette question de la prédestination morale. Alors, je vais vous donner deux midrashim que vous avez rattachés à cette analyse, et ensuite nous verrons le plan de Isaac et pourquoi l'intervention de Rivka. Vous avez votre plan avec les références que je vous ai données. Alors, attendez que je recherche. Où est ce midrash ? Je crois que c'est sur Baitrot Tetsu Abani, mais dans une minute que je. C'est plus haut. Verset 22, ça doit être. Voilà. Voilà, donnez-moi votre livre. Alors, prenez au verset 22. Ici. Page 84, deuxième colonne au milieu, Weitrotsetsu, qui n'a pas de limite. Alors, si je viens, je vais dire mon bon, c'est pas grave. Bon, c'est tout. Tu peux suivre avec elle. Vous pouvez suivre. Bon, allez. Alors, Weitrotsetsu, je vais vous lire le rashi. Vous avez un rashi résumé. Ça va, je vais vous le lire complet. Et vous suivez avec moi. Et c'est donc le verset 22. Alors, Ravotenu Darshu, ce verbe qui signifie, j'ai oublié de vous traduire, mais qu'est-ce que ça veut dire, Weitrotsetsu? Ne regardez pas en français. Quelle est la racine qu'il y a dans ce verbe, Weitrotsetsu? Hein? Par association d'idées, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Okay. Rat, ça veut dire
courir.
Très bien. Alors, c'est courir au pronominal, s'entrecourir. Un courait derrière l'autre dans le sein maternel. Okay. D'ailleurs, ils sont sortis comme ça, hein, un attrapant le talon de l'autre. Okay. Alors, Weitrotsetsu Abanim Bekirba. Rapotez-nous d'Archou. C'est-à-dire, d'après le Pshat, ça veut dire qu'ils se couraient l'un contre l'autre. Okay. Mais nos maîtres l'ont expliqué, la chôme Ritsa, une course. Pas une entrecourse, mais une course. Ritsa. Que chez Aïta, on verrait.